Potlatch, de la bande organisée à la bande FM, 90.1 sur la clé des ondes. Ça commence par Broca. Bordeaux, ville bourgeoise et planquée, connaît trop peu de périodes de turbulence. C'était sans compter le mouvement contre la loi travail et le Khomri. Ça commence par Broca. La tentative manquée d'occuper un lieu pour le mouvement à Bordeaux. Mais il a suffi d'une journée et d'une nuit pour changer la donne et commencer à se rencontrer pour s'organiser. C'est les manifs syndicales, longues, trop longues. Ces quelques tentatives de soubresauts dans les facs, trop longs à démarrer. C'est les lycées qui bloquent, la CIP qui occupe, c'est la chaufferie, c'est les manifs sauvages, et maintenant, c'est Potlatch. Commencez le début, première émission Potlatch que vous retrouverez un dimanche sur deux de 16h30 à 18h30. C'est parti.
Aujourd'hui, mercredi 9 mars, à Bordeaux comme partout en France, c'est une grosse journée de mobilisation nationale contre la loi travail. Il y avait plus de 15 000 personnes à se mobiliser, à manifester dans les rues. Clairement, cela n'a pas suffi à instaurer un véritable rapport de force avec le gouvernement. La décision avait été prise de se retrouver en assemblée à la fin du défilé. Nous avons tenté de rentrer dans l'université de Bordeaux 2, mais la police nous en a empêchés en formant un cordon agressif. Le matin déjà, la police était intervenue violemment pour empêcher le blocage du lycée du Mirail. Nous sommes donc rentrés dans un bâtiment de la fac de Bordeaux 2, un bâtiment ouvert. Dans l'amphi que nous avons envahi, immédiatement l'énergie et la motivation qui se sont dégagées nous ont donné l'envie de rester.
Police partout, Du coup, on a aussi pas que des sons enregistrés, on a aussi retrouvé des gens qui sont là au studio. Du coup, il y a Octave et Domino qui vont intervenir pour nous raconter un peu Broca, qu'est-ce que ça a été cette manif et la fin de cette manif qui prend forme dans cet amphi.
Vas-y.
Ouais, bah du coup, ouais, alors en fait, j'étais à la manif qui était la première en fait du mouvement le jour où il y a eu Broca, c'était la première manif qu'il y avait à Bordeaux, et je crois en fait nationale. Et la manif était hyper longue, il s'est rien passé. Et, en fait, j'ai l'impression que le sentiment que j'avais et qui était en fait général, c'est qu'on venait de se taper coup sur coup la mort de Rémi Fraisse, un état d'urgence, des lois de surveillance, loi Macron qui était déjà passée le 49-3. Et en fait, que la loi travail, on s'en foutait un peu, en fait, on voulait aller plus loin que ça. Et en fait, fin de manif, je vois qu'une bande essaye de rentrer, en fait, dans B2, et qu'un cordon de CRS se met en place. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'installe, Broca est libre, on va tous là-bas. Et moi, j'avais passé la manif tout seul, en fait. Et j'ai été hyper content de voir ce truc prendre et j'ai suivi, en fait. Il y avait une folie qui était... Enfin, un truc festif, j'avais trop envie dedans, plus gros qu'une simple manif où il se passe rien. Et du coup, on est arrivé, je dirais 400, en fait, dans Broca, avec une batucada qu'on a entendue. Tout le monde est rentré, monté, en fait, dans l'amphi. Tout le monde s'est installé. Il y avait des gens partout. Des gens fumaient des clopes dans l'amphi. Il y avait même un bébé à côté de moi. Et c'était... Il y avait un truc hyper cool, en fait, hyper beau, en fait. Tout de suite, on sentait qu'en fait, on allait aller un peu plus loin qu'en fait, juste une petite manif contre la loi de travail.
Et c'est comme... Oui, finalement, sur le moment, pas tant quelque chose de rationnel que quelque chose d'une espèce de pris dans une force ouais. qui emmène à quelque chose d'hyper joyeux.
Ouais, tu te laisses emporter par le fou.
Ou tu sais pas ce qui va se passer, mais bon, t'es attiré par...
Ouais. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai trouvé assez fou de tous les... des différents mouvements sociaux auxquels j'ai pu participer. Je pense que c'était la première fois que je voyais un moment comme ça où c'était directement dépassé par en fait une énergie collective. Vraiment, il y avait un gros désir de se rencontrer, de se trouver, de se capter, de discuter. Enfin, même si au moment où on essayait de faire une assemblée générale, en fait, on était tellement excités par le fait de faire ça que ça, bon, la gel a un peu foiré, ça a pas marché. Mais je pense que ça a quand même marqué un rythme, une intensité assez chouette pour le mouvement, qui était de se retrouver, quoi, de juste là, ça fait un moment que on n'a pas eu affaire à un mouvement, une espèce de dépolitisation depuis pas mal de temps. Et Broca, c'était un peu l'espèce d'énergie Schweppes. faut tchatcher, quoi.
J'ai l'impression que ça a permis à beaucoup de gens aussi de prendre conscience de l'importance d'avoir un lieu, en fait, pour le mouvement. Ouais. Parce que c'est la première fois du mouvement où on se dit on va avoir un lieu. C'est bien avant Nuit Debout, en fait. Et, du coup.
On continue.
On continue, effectivement. Donc là, le prochain morceau qu'on va entendre, c'est un morceau de The Organ Brother. Et dans la foulée, vous entendrez un texte, la lecture d'un texte, Bernard Général, un texte made in Bordeaux. We'll be right back.
C'est triste de sentir que la psychiatrie a parfois du flair. En tout cas, pouvons-nous dire, dans une certaine mesure, qu'elle reconnaît et sait donner le ton d'une époque.
La psychiatrie veut qu'il soit ici encore question d'individu. Elle a raison, puisque nous brûlons et scellés. Mais elle a terriblement tort dans le même temps. Ou disons qu'elle est terriblement ennemie en ce qu'elle ne vise qu'à reconduire notre isolement. Car je ne pète pas un câble. C'est la fiction qu'on nous tend, celle qui convertit notre refus en pathologie. On nous dit fous, nous qui sentons si bien comme ce monde est à bout. Un monde qui veut nous faire plonger avec lui, car nous devrions encore explorer la misère d'être individu ou sujet en pays libre. Travailler, être représenté, discuter comme dans un hémicycle, n'être plus qu'un réduit de besoins et d'intérêts.
Au fond, qui travaille sait le monde auquel il participe.
Que nous soyons fonctionnaires, salariés privés, ouvriers, indépendants, bénévoles, précaires, peu importe.
Il côtoie sa logique. Une logique sans visage, en soif de désastre, qui use nos nerfs pour nous soumettre toujours un peu plus, au point de ne plus avoir à s'en cacher. Désinvolte, elle nous fait croire qu'elle est en crise, alors même que dans sa course au numérique, elle fait naître sa version 2.0, dominante par le bas. Et nous continuons de brûler. Le regard déprimé des collègues de DAF, le murmure sur nos lèvres.
À qui parler et quoi dire ?
Nous dit bien que la corde est usée. Davantage, elle s'est désintégrée à même nos corps.
France Télécom.
Pôle emploi.
Sidi Bouzid.
Jusqu'où fera-t-on notre vie à contre-cœur ? Burnout.
Le monde tel qu'il va sait parfaitement produire les options faciles pour ceux qu'il sait sur la brèche. Leur faire une place. Le cynisme.
Une émission sarcastique sur Canal, le relativisme bon teint, l'égoïsme le plus banal.
Le nihilisme.
Qu'il produit, écrase, exploite à des fins policières et réunit dans un même sac Daesh, le loup solitaire, les casseurs, les suicidés, etc.
Au sentiment d'impuissance, il promet une réalisation solitaire et impériale qui écrase la réalité.
Être quelqu'un.
Branché, dominant. Le réformisme, la patience, le polissage.
Bien sûr, il arrive qu'au travail on se réalise, qu'on s'y fasse même des amis. L'intelligence de ce monde du travail est bien de nous offrir une pratique du monde, un sens commun, sans quoi nous nous heurtons à un vide abyssal que mille complaisances et divertissements nous aident à nier. Maintenant, c'est à nous de comprendre ce qui, justement, se joue à cet endroit. Nous voudrions arracher nos existences à cette réalité, sans pour autant plonger dans le vide. Se demander, en fait, c'est quoi un monde ? Comment le constituer ? Comment y exister ?
On n'abolit pas seulement la monnaie, soit les prestations impersonnelles, l'équivalence universelle ou le langage des objets, en brûlant des billets de bord. De même, on ne met pas fin au travail en dénonçant le patronat, les 1% et comment ils nous flouent ou nous exploitent. On ne peut pas s'en tenir à la seule face visible de ce qui nous tient, de ce qui nous gouverne. Attaquer les banques ne suffit plus. Tous les gouvernements de gauche le font déjà en s'indignant face à une mauvaise gestion de la finance ou face au dévoiement du progrès. Il s'agit de déserter la politique, l'économie, le travail, partout où ils prennent racine. Ça paraît abstrait, mais ça ne l'est pas en vérité. Tous les jours appellent une aventure. S'organiser en dehors du travail à 2, à 10, à 1000, c'est déjà chercher des trous.
Une rapine.
Une maison occupée, arrachée à la ville.
Un jardin partagé.
Un bastion.
Un bar clandestin.
Une chasse au trésor.
Un banquet dans les rues.
Une place forte.
La recherche de nos sens.
Tout ça, en dehors du mythe de l'individu rationnel. C'est déjà chercher d'autres manières de faire des mondes.
Ce qu'indique le moment, le mois de mars, ce à quoi il nous invite, c'est la possibilité d'une quête plus conséquente encore, que l'on viendrait signifier de façon plus offensive. À l'échelle de la ville, à l'échelle du pays. On doit se rencontrer, s'éprouver, pour peut-être gagner en puissance de désertion. Nous ne voulons pas réinventer le travail au XXIe siècle. On ne veut pas se constituer en groupe de chômeurs. Nous désirons bien plus que la misère d'un revenu à vie. Le monde est cramé. Il nous faut refaire le monde en profondeur.
Nous n'attendrons pas qu'on nous autorise à nous rassembler. Dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, il faut qu'on soit à la hauteur. Blocage de l'économie, grève illimitée, ouverture et occupation de facs et de lieux publics, caisse commune, autoréduction du resto U, cantine sur les parvis, discussion vive, bouleversement des temps. Burnout, mettre le feu dehors.
Donc le prochain morceau que nous allons entendre, ce sera Police and Thieves, un morceau de Regal School. Aussi, on n'a pas encore fait les présentations. Donc tout au long de l'émission, on entendra les douces et belles voix de Domino et de Boris, la voix très féminine de Boris. Tout à l'heure, on a entendu Octave pour parler de Broca. Et après le prochain morceau, deux lycéens sont avec nous pour parler du mouvement, de leur point de vue, de Didier et Pierre, c'est ça? Ok. Bon, vas-y, balance le prochain morceau.
Oh,
Alors, il y a aussi un numéro de téléphone, si vous voulez nous appeler et discuter avec nous en direct ou dire ce que vous avez envie. Si c'est cool, on vous laisse à l'antenne. Si c'est nul, on vous coupe immédiatement. Le numéro de téléphone, c'est le 05 56 50 69 99, 05 56 50 69 99. Voilà, et je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc vous pouvez m'appeler Ernest. Maintenant, on continue, on va lancer une sorte de phase de discussion et de présentation autour de différentes initiatives qu'on dirait autonomes, dans le sens où ce sont des groupes de gens qui sont organisés en dehors des syndicats ou des partis politiques pendant ce mouvement. Voilà, donc Domino, à toi.
En fait, il y avait quand même très peu de syndicats qui étaient motivés et déterminés pour ou lancer des dates ou lancer des initiatives qui pourraient ramener du monde. Eux, ce qu'ils nous faisaient miroiter tout le temps, c'était un peu la date du 31 avril, il me semble, comme étant la date à partir de laquelle déblocage allait se faire et tout ça. Et 31 mars, pardon. Et en attendant, c'est surtout qu'il y a toute une partie des personnes qui faisaient partie de ce mouvement-là qui n'ont pas voulu attendre. Et à des moments très différents, mais en gros, il y a que ce soit le plus connu de manière nationale, c'est Nuit Debout. À Bordeaux, il y a eu un squat qui a été ouvert, qu'on a appelé La Chaufferie, qui est un truc indépendant. Il y a les lycéens qui sont... En fait, très régulièrement, qui étaient, je crois, la seule bande à se tenir à peu près à tous les mardis, tous les mercredis, faire des espèces de manifs sauvages où des fois tu te baladais dans les rues de Saint-Michel et en fait tu avais, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de lycéens, peut-être un peu plus, qui étaient tout fous, tout joyeux. Et en fait, il y a toute la première temporalité comme ça, ça a été beaucoup de personnes qui n'étaient pas. Syndiqués, pas de partis politiques qui se sont captés ensemble. Et je pense que ça a été une des grosses forces de ce mouvement-là à Bordeaux toute la suite, en fait.
Là, il y a des lycéens avec nous. Peut-être que si ça vous dit de tchatcher de ça,
Du coup, on va commencer par faire une espèce de petite chronologie. Voilà. Du coup, au départ, ça a été les blocus lycéens, c'était lancé par l'UNEL, qui est une sorte de branche lycéenne de l'UNEF, et du coup, quelques personnes qui sont reliées à ça, qui n'étaient pas forcément dans des partis ni rien.
Oui. Elles appelaient au blocage par une page Facebook sur un groupe où ils ont quand même réussi à ajouter pas mal de lycéens. Et donc il y avait une personne qui... les appels étaient nominatifs avec une personne un peu en tête d'affiche qui se voulait être un peu la personne qui appelait au mouvement. Donc simplement en créant un groupe Facebook, l'UNEL s'est un peu positionné comme l'instigateur du mouvement lycéen, alors qu'en fait la réalité était assez différente puisque les blocus ont été surtout des initiatives internes au lycée.
Et oui, donc genre ils mettaient leur nom sur les appels au blocus, tout ça. Le premier blocus c'était le 9 mars. Du coup il n'y a eu que des blocages filtrants et des débrayages. le seul lycée qui était justement qui a pas suivi la logique des syndicats, tout ça, a voulu bloquer totalement et ils se sont fait réprimer violemment au Mirail. Mais par contre, il y avait quand même assez, il y avait beaucoup de monde à Manu Sauvage, tout ça. Il y a même eu des arrestations. Tout ça. Et du coup, il y a tout de suite, ils ont pour les manifs, par exemple, ils ont encadré, ils ont fait une espèce de service d'ordre qui était dirigé par les gens des SOS Racisme, avec du coup plus proche de la Fidèle, avec d'autres lycéens qui voulaient les rejoindre. Mais du coup, tout de suite, ils avaient un esprit gestionnaire et sécuritaire. En fait, ils avaient même peur des lycéens, en fait, puisqu'à chaque fois, et c'est ce qui a repoussé, je pense, pas mal de lycéens, ils voulaient... ils disaient, ouais, les gens qui sont là pour sécher les cours, on n'en veut pas, on veut que tout soit policé, etc. Et du coup, ils étaient 50, et ça... Je pense que ça a pu repousser pas mal de gens et ça a pu être une erreur stratégique aussi. Et la détermination aussi. Enfin, ça a un peu changé après, mais au niveau des blocus en tout cas.
Donc voilà, un peu en opposition au monopole des syndicats sur le mouvement lycéen, on a voulu créer donc, un comité de mobilisation où l'idée c'était de faire nous-mêmes nos appels en manif et avoir vocation à s'agrandir le plus possible. Donc au départ, on a eu quelques réunions en étant une trentaine où on a voulu justement organiser nous-mêmes nos manifs et nos cortèges. Donc il y a eu un moment donné avec une formation par rapport aux gestes de sécurité à avoir en manif, l'attitude par rapport à la police et le fait de créer un petit groupe autour de la manif qui encadre, ben, le problème c'est que SOS Racisme était toujours présent et c'est un peu approprié à la direction du truc et ce qui a fait qu'il y a eu un service d'ordre à Brassard qui s'est mis à réprimer un peu toute initiative qui sortait un peu du cadre, par exemple le moindre fumigène qui craquait, c'est tout de suite on se jette sur lui, alors que c'est encore plus. Non seulement un fumigène, enfin de base, bon, c'est dangereux, mais si tu t'écartes, c'est pas dangereux, mais sauf que là, si tu fonces sur le mec qui porte un fumigène, c'est un petit peu plus problématique.
Et du coup, on pense qu'à partir du 9 avril, en fait, il y a eu un espèce de rassemblement de la CGT où ils ont fait un concert, tout ça. Et les syndicats ont voulu partir en milieu sauvage, puisqu'il y a des lycéens qui étaient enfermés au lycée Saint-Onge. Et c'était l'objectif, c'était de les libérer. Et en fait, on part et de suite, les syndicats mettent leur banderole, tout ça, et prennent la tête. Et quand on arrive devant le lycée, enfin, ils disent non, on continue, on s'arrête pas. Du coup, on va jusqu'à Péperlan, et là, on décide de repartir, et là, on les voit plus. Et on arrive à aller jusqu'au lycée, et c'est la première fois qu'on les a un peu débordés, et ça a fini en occupation en blocage du tram, mais c'est la première fois qu'on a senti un peu un truc qui est dépassé physiquement, pas juste dans les paroles. Et
un vrai cortège qui sort du cadre déclaré en préfecture, la manif. Il y a eu un problème dès le début, c'était l'intimidation par rapport à toute initiative de manif sauvage. C'est que, attention, vous allez vous faire gazer si vous commencez à partir en cortège. Mais non, c'est pas arrivé. Et voilà, on a un peu foutu le bordel devant le lycée, c'était amusant. On a quand même pas réussi à les libérer. Donc après, une fois arrivé à la victoire, il y a eu une initiative de blocage du tramway. Donc ça a duré une bonne heure, dans laquelle les tramways ne pouvaient pas passer, donc, et faisaient demi-tour, en fait. Le camion de suite s'est rapproché pour permettre des interventions en micro et lancer des appels pour la suite. Donc là, pour le coup, c'est la première fois qu'il y a une réappropriation de la manifestation.
On sent qu'il a donné lieu à d'autres choses à la suite, parce que en fait on sent qu'il y a une vraie force dans les lycées qui démarre au début du mouvement. On sent que les centrales syndicales ont envie d'encadrer ce mouvement, mais on sent aussi que, par rapport à ce que vous racontez, que c'est un peu l'échec pour elles, et le seul moyen qu'elles trouvent, c'est le côté répressif. Répressif de gauche, mais bon, voilà. Le lycée, ça, peut-être à des moments, ça, on n'arrive pas trop à s'organiser là-bas. Comment vous continuez maintenant à...
Du coup, il y a eu le comité de mobilisation qui a permis à un noyau dur de se former. Et même s'il y avait très vite, il y a eu quand même une ligne de fracture intérieure aussi, mais. Et en fait, je pense que ce qui va se dégager de ça, c'est le truc affinitaire. Même là-dedans, ça a recréé une organisation, mais les gens n'étaient pas forcément amis. Du coup, il y a eu des dissonances. Et je pense qu'il va sortir de ça. C'est autre chose. Bref. Et aussi, on voulait souligner qu'il y a eu une coordination nationale lycéenne où on s'est rendu et. Enfin, c'était un échec, en fait, parce que...
Il y a eu des réunions à Paris et Toulouse dans lesquelles des lycéens mobilisés de plusieurs villes sont venus. Donc, la première fois à Paris, il y a eu vraiment pas mal de monde. Pas mal d'idées suggérées, mais quand même assez frileux, dans le sens où il y avait toujours les mêmes peurs qui revenaient par rapport aux casseurs, tout ça. Le projet à la base, c'était de créer une unité nationale dans le sens où tout le monde aurait pu être en contact et créer un réel réseau. Bon, ça n'a pas tellement abouti. Pour des raisons, je pense, de motivation. Pourquoi ça n'a pas tellement marché.
J'ai l'impression à l'échelle de Bordeaux, pas forcément du truc national, mais dans les différentes manifestations, j'ai l'impression que la date du 28 avril, elle a été assez clé parce qu'il y a eu le mouvement jeune qui a été appelé le mouvement jeune, qui a marqué une scission avec l'organisation syndicale traditionnelle de la CGT, l'organisation des manifestations plan-plan. Et qu'est-ce que ça, pour vous, c'était quoi cette initiative? Qu'est-ce que vous y attendiez? Qu'est-ce que vous avez trouvé là?
Mais du coup, c'était un peu se calquer aussi sur ce qui se faisait à Paris, etc., sur la tête du cortège. Et, du coup, on a réussi à prendre la tête du cortège, même si ça n'a pas été simple, ça. Et pour aller à la gare et tout.
Voilà. En fait, ce qui nous a surtout permis de faire ça, c'était l'ouverture du squat, la chaufferie, dans laquelle on a vraiment pu pas mal converger là-bas et créer notre propre banderole. Ça, c'est pas tellement un détail, parce que c'est ce qui a vraiment permis de créer une prise de conscience d'une force collective. Et à partir de là, le mouvement s'est, on peut dire, légèrement radicalisé, quoi, avec un mouvement à deux vitesses, donc l'autorité syndicale et son parcours prédéfini, et un cortège qui s'est dosé de s'approprier la contestation.
On a pu voir, du coup, c'est à partir de ça que chaque semaine, au niveau détermination, d'organisation, tout ça, il augmentait, et même ça se voyait au niveau des flics et tout. Ça, c'était inimaginable au début du mouvement.
Le regret qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est par rapport aux deux premières manifs où il y avait pas mal de monde, grâce au blocus qu'il y a eu, mais même filtrant. C'est de ne pas avoir su se visibiliser à ce moment-là et de ne pas avoir pu réellement créer ce noyau, parce qu'en fait, on a vu qu'au bout de deux semaines, trois, quatre semaines de comité de mob, mais en fait, c'était toujours les mêmes personnes qui venaient et ça se répétissait un peu. Et voilà, en fait, je pense que ce qui aurait marché, ça aurait été plus de prendre contact directement avec les personnes qu'on connaissait pas. Parce que l'intérêt de la manifestation, c'est surtout, se voir et de se rencontrer et pour pouvoir s'organiser de manière commune.
Mais pour vous, ce mouvement-là, j'ai l'impression que ce qui s'est pas mal constaté au niveau de la fac et du mouvement jeune, c'est qu'il y a une dépolitisation. Enfin, les AG, elles étaient assez... je parle de la fac, pas forcément de vous. Les AG étaient assez compliqués. Enfin, plus personne ne savait ce qu'était une grève, un blocage, une occupation. Enfin, il y avait tout un vocabulaire politique qui a disparu. Et qu'est-ce qui fait, pour vous, est-ce que c'était une politisation que vous qui était déjà antérieure, ou c'est ce mouvement-là qui a joué quelque chose à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire?
C'est qu'on est parti de rien au départ, donc pour ça, ouais, c'est l'aspect plutôt positif. C'est que des personnes qui ne savaient pas tellement ce que c'était qu'une manifestation ont commencé à y participer. Quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on insiste sur le côté appropriation. C'est parce que, ce qui au départ n'avait pas attiré les gens, mais il aurait fallu peut-être je sais pas.
Après oui, ce qui a vraiment manqué, notamment dans les blocus et tout, c'est l'organisation. Les gens ils savaient pas ce que c'était un blocus, ils pensaient que ça allait pas marcher ou des choses comme ça, et il n'y avait pas du coup d'expérience commune ni rien. Et
c'était la difficulté au départ, c'est que, par exemple, la moindre proposition qui était faite dans le cadre du groupe, souvent ça s'avortait parce que voilà, il y avait des risques, pas forcément des risques qui étaient réels, mais juste des peurs, par exemple, par rapport au fait de... rien que de bloquer, de pas être assez nombreux, de pas être suivi quand on part en cortège sauvage. Et ce qui a fait qu'au départ, c'était un peu hésitant.
Et, mais quand même, il y a une force qui s'est créée, des gens qui se sont rencontrés, et ça va continuer à s'amplifier et à se multiplier.
Cool. Tant mieux.
Alors, continue. Tu veux dire quelque chose encore, Boris?
Non, je voulais du coup revenir sur le lieu de la chaufferie, mais j'ai l'impression que tu vas déjà le faire.
Oui, non, il y a une sorte de transition musicale. Et après, on parle de la chaufferie, justement. Ça a été abordé pendant la discussion. Le prochain morceau, c'est un morceau du groupe The Supernovas et la chanson Ultraviolence. Qui daterait de 2011 ça parle des émeutes à Londres qui sont organisées contre la privatisation et les hausses de frais d'inscription dans les facs. Donc voilà, maintenant c'est parti et on se retrouve dans tout de suite. The holidays are over, baby, the boys are back in town. They got a problem to fix, man, it's raining bricks and the city's burning down. And as the fire spreads from London up to Liverpool, there's a man on the set and he says that you better call your kids and tell them to come home from their ultra-violent,
ultra-violent,
ultra-violent. See that it's a joke and you just wanna blow that fucker away. It's kinda like
Sirens are the only sounds that you can hear outside.